Good afternoon, everyone. Thank you.
Bien, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous. Nous allons continuer à parler de cette mise en œuvre du programme, des nouveaux programmes du GTDLD. Et nous allons nous concentrer sur ce que nous appelons cette analyse de la mise en œuvre du programme, ce qui est en rapport avec l'exécution et les opérations pour les nouveaux TLD. Donc, je m'appelle Karen Lenz et je m'occupe des recherches à l'ICANN sur ces mises en œuvre, justement, sur cette analyse du programme GTLD. Et nous allons avoir sur la table ou sur l'estrade ou sur la scène Vos Westein, Christine Willette et Christina, qui sont des spécialistes qui travaillent avec moi à la recherche et la mise en œuvre du programme des GTLD, qui ont géré beaucoup de dossiers de demande avec des procédures assez complexes. Donc, ils ont documenté leurs expériences et nous allons en parler aujourd'hui. Donc, cela a été publié en septembre pour les commentaires publics, pour recevoir des commentaires publics. Et l'idée, c'était de recevoir un retour d'information sur ce que nous pouvions retirer de cette mise en œuvre du programme. Christine Willette va nous parler de l'approche de l'équipe et Ross et Christina Flores vont nous parler du même thème. Donc, nous voulons avoir du temps pour que vous puissiez poser des questions. Donc, comme je l'ai mentionné, ce rapport est ouvert pour des commentaires publics jusqu'en décembre, le 7 décembre de cette année, et cela vous permettra de partager vos idées, vos commentaires. Nous vous encourageons à continuer à débattre de cela et à faire des commentaires publics durant cette période. Il est important, donc, c'est un peu difficile pour nous de se rappeler de tout ce qu'on avait dit depuis Dublin. Donc, il est important que ce soit par écrit, que ce soit archivé. Hein, c'est très utile pour tout le monde, je crois. Ensuite, pour vous indiquer un petit peu la situation, ce rapport fait partie d'un autre travail également. L'équipe d'analyse a vu les choix des consommateurs, la concurrence dans les GTLD, les choix pour des consommateurs et des clients. Donc, cette analyse a été effectuée dans différents domaines. Donc, vous l'avez en bleu, l'efficacité du dossier de demande et du processus d'évaluation. C'est pour cela que nous avons pu compiler des données dans ce domaine. Nous avons obtenu des informations en retour et l'équipe a commencé à travailler donc sur ces dossiers de demande, sur la facilité, sur l'efficacité de ce processus de dossier de demande. Donc, les membres de la communauté qui, de manière bénévole, vont former des équipes pour voir comment ça s'est passé. Et je crois que cela couvre un petit peu à l'aperçu général. Donc, je vais maintenant donner la parole à Christine. Bonjour, Christine Mlet, ici. Donc, avant de rentrer dans les détails et les résultats du rapport, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur notre approche. C'était une approche provenant du personnel, une analyse donc du personnel des nouveaux programmes GTLD. Nous avons travaillé au niveau du manuel pour personnes déposant des dossiers de demande. Il y avait également des panels d'évaluation pour l'exécution du programme. Donc, pourquoi est-ce que c'était une auto-évaluation? Donc, cette analyse, c'est vraiment la mise en place du programme GTLD, des nouveaux GTLD. Nous avons donc pensé que c'était un bon point de départ. Nous avons fait des efforts ces trois dernières années pour capturer véritablement les leçons retenues au fur et à mesure lors de la mise en œuvre de ce programme. Donc, nous avons synthétisé tout cela dans ce rapport. Et après beaucoup, beaucoup de débats. Donc, les différents aspects, c'était l'efficacité, le retour, le feedback. On a reçu beaucoup de feedback des participants, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, les outils, les systèmes, les process, observation du personnel également, et des différents prestataires de services. Donc, 6 dimensions pour notre analyse, 6 différents facteurs, l'efficacité, l'équité, l'aspect prévisionnel, la sécurité, la stabilité, l'alignement par rapport aux politiques et aux lignes de conduite de mise en œuvre par rapport au manuel. Donc, voilà les grands thèmes que nous avons dans le rapport. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce rapport de 207 pages, nous avons 8 chapitres. 8 chapitres à ce rapport, alignés avec notre manuel pour déposer les dossiers de demande pour les nouveaux GTLD. Donc, le traitement du dossier de demande, de évaluation, les outils que nous utilisons, les procédures pour les objections, la résolution des conflits, l'aspect contentieux, la délégation, les contrats, l'aspect délégation, le programme de soutien aux personnes déposant des dossiers. Ça faisait partie du chapitre 6. Chapitre 7, les instruments opérationnels. Ça, c'est assez long. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et enfin, la gestion du programme, étant le chapitre 8, avec un petit peu un résumé de cette analyse de mise en œuvre du programme des nouveaux GTLD. Donc voilà comment nous avons structuré notre rapport. Je ne sais pas si vous avez lu ces fascinantes 207 pages. Il y a un résumé de 7 pages, donc, ou même encore plus court, de 3 pages. Donc vous pouvez le lire donc, de manière beaucoup plus rapide, si vous êtes plus pressé. Donc, ceci dit, je vais passer la parole à Russ. Russ et Christine vont nous parler des leçons que nous avons retirées de cet exercice. Donc, si vous avez déjà lu le rapport, nous allons peut-être faire des redites, mais nous allons passer en revue un petit peu ces observations et les chapitres dont je vous ai parlé. Merci beaucoup, Christine. C'est Russ au micro. Et nous avons identifié 48 leçons de retenue. Et il est important de se rappeler que on ne suggère pas toujours un changement, une correction. C'est simplement des observations parfois. Ce n'est pas obligatoirement des changements que l'on va apporter. Donc nous avons reconnu que les changements aux politiques avant de nouveaux programmes de GTLD, par exemple, sont possibles, mais nous avons notre PDP, notre politique de développement de processus, le cas échéant et si besoin. Donc, nous avons 3 grands thèmes. Nous avons ce qui est déjà en place, nous avons un cadre qui est déjà en place, nous avons les modifications pour la mise en œuvre, nous avons des idées également pour l'amélioration, des idées qui doivent être revues entre la communauté et le personnel de l'ICANN, et il y a on a des questions que l'envoie la communauté également. Donc, on a besoin également de votre feedback. Il y a des éventuels changements de politique qui pourraient être nécessaires. Donc, le premier chapitre, le traitement du dossier de demande, ces différentes sections, les commentaires, les demandes de changement, les prioritisations, le formulaire et dossier de demande, ces différents modules donc, que vous connaissez. Donc, dans le formulaire, le dossier de demande, après analyse, nous pensons qu'on doit avoir un format plus structuré. Donc, il y avait des données qui n'avaient pas de structure. Ça, c'était difficile pour la communauté et pour l'ICANN pour évaluer ces dossiers de demande. C'était trop libre, en fait. On a dû avoir un format beaucoup plus structuré. Donc, nous avons des idées là-dessus pour améliorer un petit peu cela. Donc, c'est du côté de l'ICANN que nous devons développer un petit peu cela. L'autre aspect pour le formulaire, c'est que on a besoin de plus grande flexibilité, nous pensons, dans les comptes utilisateurs. C'était un petit peu rigide, trop rigide à ce niveau-là. vu la diversité dans la manière dont les gens ont déposé des dossiers de demande, que ce soit une filiale, plusieurs entreprises, une seule entreprise, un seul nom de marque, et ainsi de suite, une marque déposée, c'est compliqué. Vous le savez très bien, si vous l'avez fait. Et on voudrait vous donner à l'avenir plus de flexibilité dans ces comptes utilisateurs. Donc au niveau opérationnel, on peut changer un petit peu cela. En ce qui concerne la prioritisation, dans le manuel, il y a différents mécanismes, mais après le travail, après avoir reçu 2000 dossiers de demande, on avait besoin de prioriser ces dossiers. En décembre 2012, il y avait quelques petits problèmes d'évaluation. Après les dossiers de demande qui étaient arrivés l'été, on a dû retravailler beaucoup à la mise en priorité, à notre calendrier, à clarifier des questions. Donc, en gros, si on fait de la prioritisation, il faut commencer plus tôt au niveau du calendrier dans le cadre du processus. Les commentaires, ça, c'est un outil pour indiquer des opinions sur dépositaires de dossiers, sur des dossiers de demande. C'est la perspective de ces personnes. 12 000 commentaires ont été reçus. Donc, il y a un outil qui pourrait être amélioré pour qu'on puisse l'utiliser d'une manière plus efficace. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques avec cet outil. Il n'était pas tout à fait parfait. Donc, il faudra le revoir un petit peu et le reconcevoir. Donc, lorsqu'il y avait des changements, par exemple, au niveau des demandes, eh bien là, l'outil n'était pas très adapté. Ce n'était pas très facile à utiliser lorsqu'il y avait ces demandes de changement. Donc, on a appris beaucoup à ce niveau, au niveau du processus et au niveau des processus multiples pour soutenir différents types de modifications. Il faudrait, une nouvelle fois, commencer plus tôt. Il faut notifier l'ICANN à chaque fois qu'il y a un changement à un dossier de demande, lorsqu'il y a des inexactitudes dans un dossier de demande. Donc, il y avait plusieurs raisons à cela. Nous avons reçu beaucoup de demandes de changement, beaucoup plus que prévu. On a parlé d'intérêt public, de questions d'intérêt public qui se posaient, des conseils qui arrivaient de la part du GAC, de nouvelles solutions qui étaient proposées. Et donc, le programme est devenu de plus en plus long avec une rotation des différents responsables, des différents actionnaires et ainsi de suite. Donc, on a fait beaucoup de demandes de changement. On a dû gérer beaucoup de changements, de modifications. Et ça, on n'était pas prêt pour cela. On a dû s'adapter, on a dû concevoir des processus et s'adapter à tout cela. Et ça a été un petit peu laborieux, je dois dire, comme processus.
Un autre aspect était qu'il y avait différents types de modifications aussi, comme je disais. Et de toute façon, les niveaux d'importance de ces modifications variaient. Il y en avait qui avaient différentes modifications à prendre, différentes considérations à y accorder. Alors, à travers les consultations publiques, les différentes périodes, on a vu la mise en œuvre, qu'est-ce qui était prioritaire, qu'est-ce qui ne l'était pas. Mais peut-être que certains de ces processus pourraient être mis à jour dans l'avenir. Et on passe à l'évaluation, alors, l'évaluation de candidature. D'abord, on va parler de la similitude entre les chaînes pour réduire la confusion des utilisateurs, pour utiliser les différents types de chaînes, les chaînes demandées pour pouvoir essayer de supprimer les niveaux de confusion, pour avoir des chaînes qui ne portent pas à confusion. D'une part, on avait des similitudes, similarité visuelle, et donc cela portait à confusion. Et on avait différentes chaînes qui pourraient porter à confusion à cause des différentes similarités. Donc d'une part, ça pourrait être entre ASCII et IDN, par exemple, donc visuellement, ou alors les mêmes chaînes ayant des pluriels et des singuliers, ou les mêmes catégories de chaînes, et la manière dont cela pouvait porter à confusion, mais peut-être pas visuellement. Alors, si on voulait atteindre des résultats différents, on s'est dit qu'il allait nous falloir différentes orientations, peut-être de politique ou, pourquoi pas, technique. Et puis, on a un grand sujet qui est la similarité. On a tiré une leçon clé ici, et c'est le fait qu'on a différentes versions du travail au sein de la communauté. Donc, il fallait que l'on commence à travailler avec le LGR de premier niveau et les LGR de deuxième niveau. Il va falloir les considérer aussi. Donc, on devait peut-être essayer de rationaliser ce processus-là pour la série suivante. L'évaluation des services de registre et des services techniques. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des questions-réponses pour ce processus. Et donc, on parlait de la description des configurations techniques et de la capacité d'essayer de démontrer les différentes configurations techniques. Donc, l'idée était de donner à tout le monde les mêmes possibilités d'accès partout dans le marché. Et donc, on devait tous être en mesure d'être responsable. Alors, on avait différents détails techniques de back-end et les évaluations elles-mêmes pouvaient ne plus être utiles. On s'est dit parce que on a déjà d'autres vérifications bien avant cela. Pour l'évaluation des services de registre, l'évaluation technique et les différents essais, il y a beaucoup de travail à faire. On a le choix entre ces différentes options. Et on voudrait discuter cela avec la communauté pour essayer d'améliorer notre révision. Et finalement, dans cette partie, on a l'évaluation technique. Et encore, l'approche conçue voulait viser à considérer les différents types d'approches, mais notre considération était que les critères d'évaluation ne fonctionnaient pas toujours bien avec les différentes structures qui appliquaient des fois les critères ou les informations des candidats et qu'il nous manquait de certaines informations. Donc, par exemple, il y avait des compagnies qui, en fait, n'étaient que des représentants d'autres. Pour l'évaluation financière, il y a différents fondements qui justifient la manière dont on l'a faite et vous pourriez vous pencher là-dessus si vous voulez. Merci, Russ, dit Karen Lenz. Je donne la parole à Christina Flores. Christina Flores prend la parole. Alors, moi, je suis occupée des procédures d'objection. Le guide de candidature fournissait différents mécanismes de révision. Il y avait des objections de communauté, de similarité, de chaîne, de confusion. Donc, différents types de conflits. Au total, on a reçu 263 objections de ce type. Toutes ont été complétées jusqu'à présent. Une question clé qu'on a identifiée pour considérer dans les séries futures est la question des recours. Le guide de candidature ne comprend pas de procédure pour les recours aux objections ou les autres processus pour l'évaluation, pour l'évaluation prioritaire de la communauté, etc. Il y a des parties qui étaient préoccupées par les résultats des objections à travers les différents mécanismes de responsabilité de l'ICANN qui sont disponibles, qui ne sont pas spécifiques au programme des nouveaux GTLD, mais qui s'appliquent à tout le travail de l'ICANN. Ici, on a appris que cela devrait être révisé pour reconsidérer le travail de révision dans les séries futures. Le comité des nouveaux GTLD du conseil d'administration de l'ICANN, le NGPC, le comité du programme des nouveaux GTLD du conseil d'administration, a approuvé un mécanisme de révision pour deux objections de similarité de chaîne spécifiques qui, en réalité, appartenaient à deux résultats spécifiques et qui seront mis en œuvre pour d'autres séries. C'est une option qui pourrait être considérée comme un autre mécanisme de recours. Le chapitre numéro 4 du rapport porte sur un modèle du guide de candidature qui porte sur la résolution de conflits. Je pense que dans cette salle, tout le monde connaît ce concept de conflit par la similarité de chaînes. Mais en réalité, c'est parce que il pourrait y avoir différentes chaînes qui peuvent être identifiées comme étant en conflit entre elles parce qu'elles portent à confusion à cause de leur similarité. Donc, c'est ça le processus. Ici, dans les quatre domaines identifiés par le guide de candidature sont l'évaluation prioritaire par la communauté comme solution. Et alors, la communauté va évaluer la candidature en fonction d'un ensemble de critères prédéfinis pour essayer de décider de la question. D'autre part, si ce n'était pas un candidat de la communauté, l'ICANN encourage la résolution par le personnel. Mais dans les cas où les personnels ne peuvent pas le résoudre entre eux-mêmes, on a l'enchère de dernier recours de l'ICANN, c'est-à-dire un mécanisme de recours d'enchère organisé par l'ICANN. Et donc, à partir du CPE, de l'évaluation prioritaire par la communauté, on a un panel qui a mis en œuvre des processus qui assurent que l'évaluation était cohérente et on considère cela en détail dans le rapport. On explique comment on pourrait fournir des lignes directrices à l'avance et accepter des commentaires de la communauté, élaborer ces lignes directrices ensemble avec le panel d'évaluation prioritaire de la communauté. On a reçu pas mal de commentaires par rapport au processus. Et puisqu'il s'agissait d'un nouveau concept pour cette série d'enchères et d'évaluation de la communauté, on a considéré les différents aspects. Alors, on s'est dit qu'on devait peut-être réviser cette partie-là. Pour passer au deuxième point sur la diapo, on a les considérations de la communauté qui s'intègrent avec la leçon tirée que j'expliquais tout à l'heure. Mais on veut signaler que le concept de la communauté existe au-delà du guide de candidature et qu'en fait, ça fait partie des procédures d'objection aussi lorsqu'on parle des objections de la communauté. Et donc, c'est un domaine pour lequel le conseil d'administration a reçu les conseils de différents comités et qui a été identifié comme un sujet qui pourrait être approprié pour discussion de la communauté. Alors, pour les prochaines séries, il faudrait recevoir l'aide de la communauté. Et donc, maintenant, on peut avancer, sachant ce que la communauté veut. Le point suivant porte sur les enchères de dernier recours dont je parlais tout à l'heure. Et ce que nous avons observé est que dans la manière à travers laquelle on gérait les candidatures, en fait, on faisait toujours recours à ce type de recours. Les personnes finissaient par éliminer leur candidature. Donc, sur les 357 conflits potentiels, il ne reste plus que 13 à résoudre. 13 ont été d'ailleurs traités par enchère, donc la proportion est très très petite. On sent donc que cela fonctionne bien et on pourrait l'inclure dans les séries futures avec très peu de modifications à apporter. Le point final donc dans notre diapositive, les enlèvements, les éliminations des candidatures ne font pas vraiment partie du guide de candidature, mais on l'a inclus ici parce qu'on sent qu'il porte ou qu'il a trait en fait à la résolution de conflits. Le guide de candidature identifiait le besoin de l'élimination de certaines candidatures, mais il ne définissait pas un mécanisme pour que les candidatures passent à cette dernière étape de finalisation. La conséquence de l'élimination de la candidature, c'est que le candidat doit initier lui-même le processus et par la suite, l'ICANN va pouvoir le rembourser parce que tous les candidats, avant de contracter avec l'ICANN, peuvent recevoir des remboursements. Et à mesure qu'on avance vers la conclusion, on voit que les candidatures qui ne sont pas éliminées, même si elles ne peuvent plus avancer avec le programme, restent là. Alors ici, pour les prochaines séries, il faudrait considérer la possibilité d'élaborer un processus par lequel l'ICANN peut faire passer des candidatures à un autre état et initier le remboursement sans que ce soit ou que ça dépende du client de lancer ce processus. Je redonne la parole à Russ pour le chapitre numéro 5. Je vais parler du processus de sous-traitance. C'est le chapitre numéro 5, c'est le processus où on a le contrat de registre. Le but était de fournir une prévisibilité avec un contrat de base avant la période de candidature, avant qu'elle commence. Et c'est ce qu'on a fait. Mais il y a des questions imprévues qui demandaient des modifications au contrat et des mises à jour à ce contrat à plusieurs reprises avant de pouvoir atteindre un état plus constant, plus permanent. Alors le but est que ce soit plus prévisible pour les candidats, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui pourrait surgir. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres processus qui apparaissent, qui fonctionnent mieux pour mettre à jour ce travail. Le deuxième concept dont on veut parler ici est que pour cette série, il y a eu différents types de candidats qualifiés dont certains avaient des rapports, des relations contractuelles et d'autres n'en avaient pas. Donc, par exemple, la communauté avait une spécification 12. Puis, il y avait aussi des obligations contractuelles pour les marques dans la spécification 13. Mais les candidatures géographiques n'avaient pas d'exigences contractuelles spécifiques pour les chaînes géographiques. Alors ici, on a demandé à la communauté, encore une fois, s'il devait y avoir différents types de candidatures. Et dans ce cas, quelles devaient être les exigences contractuelles spécifiques à ce type de candidature? Ici, on parle de la transition au processus de délégation. On se centre plutôt sur le processus d'essai préalable à la délégation. Alors, à chaque fois, la plupart des candidatures venaient de cet ensemble de fournisseurs back-end qui étaient plus petits. Mais les essais préalables à la délégation ne considéraient pas l'évoluabilité avec le fournisseur et on devrait peut-être considérer cela dans l'avenir. Et alors, il faut voir quelles sont les tâches que l'on peut compléter au niveau de l'infrastructure, au niveau du back-end. Et puis, une quantité des essais préalables à la délégation, en fait, portaient sur les documents. Et il fallait voir si les documents pouvaient être convertis à d'autres tâches plus spécifiques. Et donc, ça pourrait être utile, mais il faudrait voir si tout fonctionne avec les certifications quand le moment est venu. Alors, il faut vraiment considérer comment on peut restructurer ces essais préalables à la délégation pour qu'ils soient plus efficients pour l'évaluation de candidature et pour qu'ils soient plus solides aussi. Christina Flores prend la parole. Alors, pour le chapitre 6, on s'est occupé du programme de soutien aux candidats, qui était une initiative de la communauté pour promouvoir l'accès au programme des nouveaux GTLD. Donc, on avait deux composantes, une financière et l'autre non financière. Notre inquiétude principale était qu'il n'a pas été suffisamment utilisé. L'ICANN a fourni un fonds de 2 millions de dollars pour soutenir les candidats qui respectaient les critères du programme. Mais on n'a reçu que 3 candidatures de soutien financier et une seule respectait les critères et a reçu l'aide financière. Alors, on voit que les fonds n'ont pas tous été utilisés. Donc, la leçon apprise ici est que les défis devraient être évalués davantage pour voir comment améliorer le programme et pour augmenter l'utilisation des fonds qui sont prévus pour ce programme. Par rapport aux critères et aux processus utilisés pour le programme de soutien en candidat, le programme de soutien en candidat, en réalité, ne faisait pas partie du guide de candidature. Il était plutôt une voie séparée. Et donc, il a commencé avant les autres évaluations. Alors, on n'a pas bénéficié des leçons tirées du reste de l'évaluation. Mais pour les séries futures, ce qu'on a identifié ici comme une amélioration à apporter est d'intégrer les leçons tirées des autres évaluations pour nous assurer qu'on utilise les meilleures pratiques communes aux autres et que ce soit aussi prévisible que possible. Le chapitre 7 portait sur l'instrument des opérations continues, qui est un instrument financier et que, comme Christine a dit, comprend les lettres de crédit pour les opérations des registres, cas où le TLD faisait faillite. Alors, pour l'instrument des opérations continues, on a compris une description de cela. C'est ce qui a été intégré au processus d'évaluation comme faisant partie de l'évaluation communautaire de priorité. Et à l'époque, on a commencé à travailler déjà avec des sous-traitants. L'ICANN fait face à certains défis souvent, et pour la révision de cet instrument, c'était le cas. On entre dans les détails dans le rapport, donc si vous êtes intéressé par cela, vous pouvez le consulter. Mais on a certaines mesures à partager, parce que toutes les lettres ont dû être modifiées avant que les parties puissent sous-traiter avec l'ICANN, et 20% des candidats ont dû être modifiés 2 ou 3 fois avant de pouvoir compléter le processus. Il y a bien sûr un certain niveau de travail administratif là-dessus pour les candidats, bien sûr, mais aussi pour l'ICANN. Dans les séries futures, ce qu'on a appris est qu'il faudrait que l'on reconsidère ce processus pour voir si on peut le faire plus efficace. L'alternative serait de reconsidérer tout le concept en général et voir s'il n'y a pas une manière plus efficace de financer les initiatives. Je vous redonne la parole, Russ. Russ prend la parole. On a presque on est presque fini. On va parler de la gestion du programme dans le chapitre 8. C'est les questions ou les sujets principaux du programme. D'une part, on a les systèmes et la leçon tirée ici. Culican a essayé de travailler avec l'élaboration de systèmes et pendant l'étape de définition du programme, mais à mesure que le guide de candidature commençait à avancer avant le début du programme, le défi était de concevoir un système. Alors la leçon apprise ici serait de fournir davantage de temps ou suffisamment de temps pour le bon développement. Et l'autre leçon apprise ici est que dans certains des autres processus, on a pu lancer des programmes bêta pour assurer que tout fonctionnait comme prévu avant de lancer vraiment la version. Donc, on devrait voir si on peut utiliser ce type de programme bêta dans l'avenir pour les prochaines séries. Et aussi qu'il faut s'attendre à l'inattendu par rapport au système, surtout pour qu'il soit plus agile que ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour la coordination du fournisseur de services, au long de notre travail, nous avons développé et renforcé les services de l'ICANN et leur rapport avec les sous-traitants. D'une part, on avait le rapport de back-end, comment on peut maintenir à jour les différents documents des différents fournisseurs, ce qui a été complété rapidement. Mais pour nous, le plus difficile était de s'occuper de la transparence envers la communauté, dans le sens qu'il faut publier les documents de processus et les lignes directrices du processus avant le début des évaluations. Et c'est ce qu'on a fait au long du processus. C'est ce qu'on a appris comme caractéristique importante de ce type de travail. Donc la leçon tirée est qu'il faut continuer de renforcer ces processus de responsabilité, de transparence, comme la publication des résumés de nos travaux et les documents de processus. Par rapport à la gestion financière, les frais de candidature et certains des autres frais supplémentaires ont été développé avant le programme complet. Alors, c'était justement des valeurs estimatives parce qu'on n'avait pas d'expérience préalable et il serait nécessaire de faire une évaluation complète du programme pour avoir des frais plus réalistes dans l'avenir, voir comment on devrait les améliorer, comment on devrait calculer ces frais, etc. Du côté des communications, il y a eu beaucoup de communications basé sur ce programme, comme vous savez tous. On a fait beaucoup d'efforts avant le lancement du programme pour essayer de sensibiliser les gens. Et puis, on a fait beaucoup de communication tout au long de la mise en œuvre pour assurer que les personnes sachent où on en était au processus, qu'est-ce qui suivait, etc. Et donc, la leçon apprise ici était d'essayer d'avoir une sensibilisation plus coordonnée, qui soit plus simple à suivre, et d'utiliser également des nouvelles structures de l'ICANN, parce qu'on a une équipe de participation des parties prenantes mondiales qui est très orientée envers les consommateurs. Donc, d'utiliser ces voies qui ont été créées. Et puis, pour le service à la clientèle, l'ICANN a développé son service à la clientèle pour ce programme surtout, et donc on a beaucoup appris pendant la mise en œuvre du programme. On a maintenant un nouveau service, on a commencé avec un service à la clientèle qui opérait depuis Los Angeles, et maintenant on a une équipe mondiale, de soutien mondial, ça s'appelle comment? Je pense que c'est Global Support Team. Alors on est bien sûr disponible 24 heures sur 5 jours à la semaine à travers nos différents bureaux mondiaux, et c'est utile d'avoir du soutien pendant qu'on présente sa candidature et qu'on la prépare, ce qui sera sans doute utile pour les candidats. Voilà la fin du résumé. Je redonne la parole à Christine. C'est Christine Rosette qui prend la parole. Merci. Voilà donc le résumé de notre rapport. À ce point-là, si vous avez des questions à poser, allez-y. Mais oui, Rubens Q prend la parole. Merci. Ma question porte sur un sujet qui n'a pas été discuté ici, qui est la question de précision. On ne voit jamais les questions de précision qui sont envoyées aux candidats et leurs réponses, même si ces questions sont publiques. Alors, par exemple, on n'est jamais en mesure d'évaluer si les questions étaient suffisamment claires pour que les gens les comprennent, parce qu'on ne sait pas quelle est la question de précision. Et je n'en ai pas entendu parler récemment. On en a parlé pendant le processus de candidature, mais tout à coup, ça s'est disparu. Alors, ma question est, pourquoi n'en parle-t-on pas? Alors pourquoi les questions de précision ne sont toujours pas abordées? Merci. Ross? Merci, c'est Ross qui prend la parole. On a différentes réponses à votre question. D'une part, la précision des questions, en fait, était un point qui était dans notre système d'élaboration et notre processus d'élaboration d'un système pour la préparation de ces questions-réponses. La plupart de ces questions, en fait, étaient posées par rapport aux questions non publiques. Alors, je pense que c'est ça qui compliquait un peu le partage de ces questions de précision. Et on ne parlait pas vraiment du fait que les questions allaient être publiées quand on les a élaborées. Alors, c'était compliqué de publier ces questions de précision et ces réponses sans que les gens le sachent. Peut-être que dans l'avenir, on pourrait le faire, on pourrait considérer cette possibilité d'avoir des questions et des réponses publiques. Alors, plus de 80% des questions de précision portaient sur les questions publiques. Non? Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Christine Rosette prend la parole. Merci, Ruben. Alors, le rapport complet parle des questions de précision. Si vous voulez voir ce qu'on en dit, c'est vrai qu'il y a des améliorations à faire, mais il faut également discuter de la disponibilité publique de ces questions de précision, parce que cela implique certains défis. Potentiellement, il faudrait également voir si les réponses devraient également être publiques ou pas. Alors, bien sûr, faites-nous parvenir vos retours là-dessus. Hein. Allez-y. Bonjour, c'est Susan Payne. Et ma question porte sur la portée, justement, de ce travail, de ce document. Est-ce une révision de mise en œuvre? Et d'autre part, vous dites que vous évaluez la mise en œuvre du guide de candidature et pas le guide lui-même. Mais dans le deuxième paragraphe, vous parlez de la résolution du personnel, du conseil, et vous parlez de ce guide comme une mise en œuvre de politique. Alors, pourquoi avez-vous décidé de ne pas réviser si le guide de candidature lui-même met correctement en œuvre la politique? Et seulement, quelles sont les étapes ultérieures de ce travail? Christine Rosette prend la parole. Merci, Suzanne. Vous avez raison. C'est vrai que Christine Willett, pardon. Le guide est considéré le travail de la communauté comme traduction des politiques qui traduisent le programme et sa mission. Donc c'était ça la première étape. Alors chaque révision se centre sur la mise en œuvre opérationnelle de ce guide de candidature. Bien sûr, on fait mention de différents aspects de la politique, d'une part, qui pourraient bénéficier de précision, et aussi de différents aspects du guide de candidature qui pourraient bénéficier de modifications, parce que nous croyons que ça pourrait avoir un impact sur la mise en œuvre si on modifiait le guide de candidature. Donc, c'est ça l'approche qu'on a prise. Est-ce que quelqu'un a d'autres opinions? Karen Lentz prend la parole. Je voulais simplement ajouter que je pense que votre question, Suzanne, était plutôt s'il va y avoir une évaluation de kit de candidature comme mise en œuvre de la recommandation de politique de la GNSO. Et je pense que c'est ce qu'on fait dans l'initiative qui est en cours au sein de la GNSO, d'identifier les initiatives et de pouvoir partager les discussions sur ce qui s'est passé dans cette série et dans les prochaines séries, ce qui pourrait se passer. Merci. Bonjour. John Buchanan de Google prend la parole. Deux questions. Il y a certaines parties du document où vous supposez qu'il va y avoir toujours des séries pour la mise en œuvre de ce programme. Par exemple, dans la partie de discussion des conflits. Mais est-ce que vous savez quel pourrait être le processus, si ça pourrait être un processus continu plutôt que de l'avoir divisé en séries et si cela aurait un impact sur la mise en œuvre future? Christine Willett prend la parole. Merci, Jordan. Oui. Pour simplifier la communication, on parle de séries, mais oui, effectivement. Si c'était approuvé et soutenu lors des prochaines séries, on a discuté le potentiel d'accepter ces méthodes pour d'un programme permanent et pas toujours en série. C'est juste qu'on n'a pas de délai prévu. Jean-Luc Cannon prend la parole. Alors, ma deuxième question est, dans la manière que vous avez considéré cela, ce pourrait être utile de partager la vie du personnel, de si ça pourrait être plus compliqué ou plus simplifié, mais ça nous permettrait de mieux comprendre les compromis entre les deux perspectives. C'est une suggestion. Christine Willett prend la parole. Merci. Ce qu'on a discuté est que, étant donné les discussions au sein de la GNSO, avec les modifications de politique et avec toutes les révisions en cours en ce moment, on prévoit qu'il pourrait y avoir potentiellement des modifications significatives au guide de candidature ou à la mise en œuvre de cette série si ce n'est pas politique. Alors, il est probable que l'on puisse avoir une autre série où toutes ces nouvelles politiques et procédures soient mises en œuvre. Et à partir de cette deuxième série, on pourrait commencer à penser à entrer dans un mode d'acceptation de candidature en permanence. Mais oui, c'est à considérer. John Buchanan prend la parole. Merci. Oui, je suis d'accord avec vous.
Non, je crois que ce sera un bon processus, en effet, pour gérer tous les dossiers. Donc, ma deuxième question sera la suivante. C'était mentionné dans le GDD, dans la mise à jour du GDD, que le processus autour du tour actuel, et je crois comprendre qu'il y a beaucoup de processus que vous avez véritablement mis en œuvre. Et la question que je voudrais poser, c'est dans quelle mesure le processus pour ces mesures, pour ce qu'on appelle le sunset, sera le même à l'avenir? Est-ce que ce sera le même processus à l'avenir? Qu'est-ce que l'on peut faire pour s'assurer que vous avez retiré des leçons de ces nouveaux GTLD? Et lorsqu'il y aura une nouvelle tournée de GTLD, est-ce que vous prendrez en compte le rapport et donc les résultats de ce rapport? Voilà un petit peu la question que je voudrais poser. Donc, pour la prochaine série, je ne sais pas ce que cela va donner. Il y a différentes activités, il y a des mécanismes de responsabilité qui ralentissent parfois un petit peu les choses. On ne sait pas quand ça va se dérouler. En tout cas, on ne connaît pas le calendrier. Mais notre programme actuel dure jusqu'à l'année 2017. Nous allons soutenir le programme jusqu'en 2017. Et même après 2017, ça dépend des besoins. Mais il y a certains aspects du programme qui ne fonctionnent pas actuellement. Donc, par exemple, l'évaluation technique, l'évaluation financière, ça, c'est à peu près terminé. Les objections, le processus des objections, je crois que on a eu deux objections qui nous restent uniquement. Donc, le travail avec les prestataires de services, avec les panels, ça va bientôt se conclure, ça. Hein. Donc, lorsqu'il y a une prochaine série dans 2 ans ou dans 5 ans, on ne sait pas, eh bien, nous devrons réengager des entreprises pour effectuer ce travail. Et plus il y aura de temps entre les séries, eh bien, plus il y a de chances que l'expertise que nous avons obtenue soit perdue, en effet. C'est pour cela que nous faisons beaucoup d'efforts pour documenter nos procédures, mais nous avons documenté la manière de procéder. Dans le rapport, au niveau interne également, on a appris beaucoup. Donc on essaie de garder cela au maximum, de conserver cela, d'archiver. Mais en effet, si il y a beaucoup de temps qui se passe entre plusieurs séries, il faut parfois réinventer un petit peu la roue. Donc d'autres questions? Oui, Christina Rosette, 2 questions. La première, ce serait utile pour moi que vous clarifiez un petit peu un point. Quel était le processus pour parler d'un problème et quand avez-vous décidé que ça valait la peine que ce soit une leçon retenue? À quel niveau est-ce que c'était une leçon retenue? Par exemple, il y avait des inquiétudes il y a quelque temps sur les frais très élevés pour les prestataires de services. Mais ça, c'est pas une leçon de retenue, c'est frais très élevés, le coût de ces GTLD. Donc, peut-être que la communauté avait un point de vue un petit peu différent. Donc, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ces leçons retenues et pourquoi vous n'en avez pas choisi d'autres. Quels étaient les critères de sélection? Donc, le processus était le suivant. Et je dois dire franchement que, au sein du programme, nous avons commencé avec une ébauche de documents. On a fait des entretiens, des interviews ont été effectuées, notamment les gens qui sont devant vous, cette table ronde, des collègues dans le cadre du PDP. Et on a fait des séances de brainstorming, de remue-ménage pour réfléchir à tous les problèmes qui s'étaient posés. Des milliers d'heures ont été engagées dans ce rapport, dans ces entretiens. Donc, on est passé par combien de versions pour chaque chapitre? Vous vous rappelez de cela? Des dizaines. Donc, et les leçons retenues avec ce qui était approprié pour nous, on pouvait commenter sur certaines choses, parfois pas sur d'autres. On n'est pas là pour faire des développements de politique, mais au niveau opérationnel, on sait comment améliorer le fonctionnement, l'opérationnel, comment le potentiel peut être accru, amélioré, comment on peut obtenir de meilleurs résultats. On a essayé de souligner cela. Donc, on n'avait pas l'intention de mettre quoi que ce soit de côté. On n'avait pas de censure. C'est pour cela que nous avons également les commentaires publics. Ce que l'on sait, c'est que notre expertise est limitée. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à la communauté, qui a travaillé également. Oui, ma deuxième question sera la suivante. Pour les commentaires publics, ai-je raison de croire que ce qui était le plus utile pour le personnel, c'était qu'il y avait d'autres leçons de retenue et que nous avons une perception un peu différente des choses? Est-ce que c'est exact? Et deuxièmement, étant donné que ce rapport va aller à l'équipe d'analyse CCT, est-ce qu'il y aura d'autres révisions au rapport sur la base des commentaires publics? Ou est-ce que l'équipe d'analyse aura simplement le rapport et point à la ligne? Merci, Christina. Tout feedback est le bienvenu. Nous noterons tout. Nous voulons savoir ce que nous n'avons pas couvert, qui n'a pas été suffisamment couvert. Les erreurs éventuelles que nous avons commises, nous voulons le savoir. Nous avons débattu de comment travailler avec l'équipe d'analyse et de révision. Et ça dépendra des commentaires publics. Ça dépendra de la portée de ce travail d'analyse. Je crois que nous allons publier une version finale avec les commentaires publics, les commentaires de la communauté. Donc, je ne sais pas si une deuxième version fait sens avant une version finale. Mais oui, je pense qu'il faut incorporer le feedback de la communauté. Robin Skew, j'ai noté quelque chose sur les procédures d'objection. Il y a un processus de décision, il y a les résultats, et il y a la possibilité de revoir certaines objections spécifiques de personnes qui avaient une objection mais qui n'avaient pas le droit d'effectuer des objections. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Oui, merci, nous prenons note. Oui, Susan Payne. J'aimerais rebondir sur ce que Christina disait. Je sais que le rapport aurait été encore plus long, mais j'ai vu une annexe, une appendice très utile. Et je crois que ça m'a pris du temps à comprendre que beaucoup ce qui est débattu dans les conclusions n'ont pas été capturés dans les leçons retenues. Donc, par exemple, j'avais une équipe de personnes, j'ai essayé de leur dire quelle section lire, parce que vous ne pouvez pas lire les 200 pages. Et on ne parlait pas dans le chapitre 4 de leçons retenues, par exemple. Et ça, c'était en annexe, c'était en fin de chapitre. Donc, ce n'était pas très clair comme organisation au niveau interne. Donc, il y a des conclusions, en fait, dans tout le rapport qui pourraient être placées différemment, je crois. L'ordre n'est pas toujours le bon. Ça aurait été facile d'avoir un résumé un petit peu des conclusions que vous avez obtenues. Ça nous aurait été plus utile, je pense. Il y a une section qui était très utile, mais elle n'était pas complète. Ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Merci, nous prenons note. Leçon retenue. Résultat, observation. On aurait pu utiliser différents titres. On ne voulait pas aller trop loin, parce que je vous rappelle que nous sommes des membres du personnel de l'ICANN. Mais nous prenons note de vos observations. Et il y a eu certains, peut-être, oublis auxquels nous pouvons remédier. Donc, Christina, vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Oui. Donc, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez vous déplacer vers des micros au devant de la salle. Ah, je vois une question au fond de la salle. Mais le monsieur n'a pas de micro, donc il faut que vous utilisiez un micro, monsieur. Je m'appelle Cyril. Donc, pour la prochaine série, est-ce que ça va être la même chose pour les nouveaux applicants, les nouveaux personnes demandant donc des GTLD, ou bien est-ce que ça va se dérouler de la même manière? Comment ça se passera pour la prochaine fois? Donc, il y a différentes analyses et révisions qui sont faites actuellement sur les différentes séries du programme de GTLD. Le GNSO fait une analyse, fait sa propre révision du programme. Il peut y avoir des changements de politique. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Et ça aura un impact sur la prochaine série des GTLD. Et selon les politiques, selon la mise en œuvre, cela déterminera si les opérateurs de registre travailleront différemment la prochaine fois ou pas. Il y a les aspects techniques qui rentrent en ligne de compte également. Il y a les prestataires de services, les points de vue des prestataires de services. On veut être plus efficace. Il y a moins de 50 prestataires qui travaillent un peu en coulisses pour tous les registres. Donc, il y aura beaucoup de changements, je crois, d'ici la prochaine série, mais on ne peut pas exactement savoir quels seront les changements et comment les opérateurs de registres travailleront. Mais nous voulons que ça soit tout à fait équitable et efficace et performant. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui. Il y a eu des commentaires et des questions sur les leçons retenues. Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le rapport? Lorsque nous avons créé ce rapport, eh bien, la structure du rapport, en effet, il y a eu des tonnes d'informations dont on pourrait parler qui sont dans le rapport, et il a fallu, en effet, les mettre en lien d'une manière logique, les organiser. Il y a tant de thèmes à traiter, tant de sujets. Vous savez, c'est difficile. Dans les commentaires publics, il faut les prioriser. Et c'est bien là le problème. On doit travailler sur beaucoup de différents points. Il y a différents domaines qui ont un impact plus fort sur différents processus. Donc c'est ça ce qu'on essaye de faire dans notre travail. Et c'est ça ce qu'on va essayer de faire avec les commentaires publics qui arrivent encore, d'ailleurs. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance et vous remercier toutes et tous de votre attention et du temps pris à lire ce rapport. Merci d'avance de vos rapports et de vos commentaires publics. Karen, on va continuer à en parler cette semaine. Il y a d'autres séances? Oui, absolument. Nous avons une séance demain à 13h sur l'étude sur la stabilité et nous allons examiner la méthodologie pour l'examen de la zone racine et ses différents systèmes. Donc demain à 13h, mercredi à 8h du matin, nous allons travailler sur les données un peu plus en profondeur, sur les instruments de mesure, sur les différents chiffres tenus avec l'évaluation des CCTLD, et ainsi de suite. Oui, merci beaucoup, bonne soirée et bon gala.